le magazine des Nations Unies.
Bonjour et bienvenue dans cette émission. La MONUSCO a 15 ans en RDC. Le magazine des Nations Unies consacre l'essentiel de cette édition à cet événement. Dans un instant, vous suivrez un dossier sur les bilans et perspectives de la mission, la relation entre une économie de guerre et la paix dans un pays post-conflit comme la RDC et le portrait de l'un des pionniers de la division de l'information publique de la MONUSCO. Un autre bilan, c'est celui que dresse le Comité international de la Croix-Rouge en RDC pour l'exercice 2014, à laquelle les principales activités réalisées cette année, la chef de la délégation du SCR et l'invité du magazine des Nations Unies, vous la suivrez dans cette édition. Enfin, quel est l'état des lieux de la pandémie du sida en RDC? Dans ce numéro, le représentant de l'ONU sida dans ce pays donne quelques chiffres qui poussent à l'optimisme à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida. Voilà pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Mesdames et messieurs, bonjour. Nous le disions en sommaire, cette édition est marquée par la célébration des 15 ans de la MONUSCO et nous recevons dans ce studio Jean-Pierre et Lali Coco pour en parler. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Lydie. 30 novembre 1999, 30 novembre 2014, cela fait exactement 15 ans que la MONUSCO existe. Durant toute la semaine dernière, la mission a organisé une série d'activités, notamment des émissions télévisées, en vue de faire le bilan et aussi dresser les perspectives d'avenir. Radio Capi, notre chaîne, a organisé des émissions auxquelles les différentes personnalités ont participé. D'abord, pour ce qui est du bilan, Radio Capi a fait promener son micro à travers vers les grandes villes du pays pour recueillir les avis des Congolais. Je vous propose quelques réactions.
Moi, je trouve que le travail est acceptable, malgré que ça a pris trop de temps. Faut-il dire qu'il reste ou qu'il parte, il y a un problème. Nous n'avons pas d'armée, c'est encore mieux qu'il reste. Il faut encore plus du bien que du mal, en dépit de quelques manquements que nous constatons.
La MONUSCO a aidé les autorités politico-administratives et même les humanitaires à atteindre les coins et recoins de notre pays sans beaucoup de difficultés. La radio Okapi informe en toute objectivité sur toute l'étendue du pays et même à l'extérieur. Nous souhaitons que la MONUSCO reste dans le pays jusqu'à la pacification totale du pays.
Le jugement est largement positif puisque la MONUSCO est allée au-delà de la mission. C'était la sécurisation. Aujourd'hui, la MONUSCO est dans les renforcements des capacités. Le pays est immense, mais je pense que la MONUSCO est quand même à la hauteur de sa tâche.
La MONUSCO est tout simplement un fiasco total. En se muant à la mission de stabilisation du Congo, notre espoir était que la MONUSCO allait s'impliquer dans les processus électoraux de manière à garantir sa transparence des élections. Malheureusement, la MONUSCO a fermé les yeux.
L'action de la MONUSCO est assez positive parce qu'elle a aidé à stabiliser l'Ituri, même s'il y a encore des postes de résistance. La route, par exemple, Bunyanjougou, où la MONUSCO a réhabilité la route, l'action de la MONUSCO n'est pas en tout cas négligeable.
Il y a aussi des responsables politiques. Nous proposons aux auditeurs ce qu'ils pensent. Par exemple, le professeur Théophile Mbemba, député national, cadre de la majorité présidentielle, il était l'invité de Radio Capi mercredi dernier. Et puis vous allez suivre la réaction de Vital Kamerhe, président de l'UNC, parti de l'opposition.
Je crois que ce qui est important, c'est de circonscrire les contextes dans lesquels la MONUSCO, la MONUC est née. C'est qu'à ce moment-là, le pays était en guerre, le pays était divisé à près de 3-4 espaces dirigés par le mouvement rebelle et que donc il y avait besoin de pacification et de réunification de ce pays. Je considère que l'objectif qui était visé, c'est de restaurer la paix, de contribuer à la réunification de notre pays. Cet objectif a été atteint et le pays a été réunifié. Aujourd'hui, les Congolais peuvent circuler librement à travers leur pays. Mais cependant, il y a quand même des questions qui demeurent. Pourquoi 15 ans après, la paix, puisqu'il y a eu sa contribution, pourquoi la paix n'est pas totale au...
C'est un regard en dents de scie. Parce qu'au début, avec Laurent Désiré Kabila, il y avait des difficultés. Il avait encore à la tête l'histoire des 60 quand on avait assassiné Lumumba, alors qu'il y avait une mission des Nations Unies sur le territoire congolais et comme par hasard était dirigé par un Tunisien. Nous avons déploré la léthargie au début parce qu'il y avait incompréhension. La MONUC était limité dans son mandat. Les gens mouraient pendant qu'il y avait des casques bleus sur le territoire congolais. Avec Namangangongi, nous avons réussi à signer l'accord global inclusif 1 plus 4. Mais c'est avec Swing, finalement, que nous allons faire la transition 1 plus 4 à l'Andos, qui est venu. Et c'était au moment où Nkunda a créé le CNDP. Grâce à lui, nous avons obtenu l'acte d'engagement de Goma en janvier 2008. Roger Miss, qui devait, lui, avoir comme mission de consolider la démocratie déjà acquise, parachever la pacification, des grandes missions qui lui étaient confiées. Mais avec peut-être beaucoup de naïveté, il avait cru que les Congolais pouvaient, après avoir organisé les élections de 2006, évoluer seuls. Erreur. Monsieur Martin Kobler, qui est venu dans des conditions très difficiles, parce que nous avons les M23 sur le terrain, et il a fait sa déclaration, il a dit qu'avec moi, nous allons mettre fin au phénomène M23. Et il l'a fait avec les casques bleus sur le territoire congolais. Ça signifie que la mission n'est pas encore accomplie.
Ensuite, les responsables de la MONUSCO, le général Abdallah Wafi, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU, lui laisse aux Congolais le soin de faire le bilan. Toutefois, il reconnaît que des efforts ont été faits et que beaucoup reste à faire.
15 ans jour pour jour, le résultat est-il positif ou négatif? Aux Congolais et aux Congolaises de juger. Nous, au niveau des Nations Unies, nous estimons que beaucoup de choses ont été accomplies. Rappelez-vous, ce pays était divisé avec des armées, avec des pouvoirs qui se partageaient le pays comme des butins de guerre. Aujourd'hui, la RDC est un pays réunifié avec des institutions qui fonctionnent, avec des institutions très fortes, avec une armée nationale, une police nationale, une justice qui fonctionne, une économie qui est en train de prospérer, de se développer, avec la sécurité dans la quasi-totalité du territoire congolais. Cela grâce aux efforts des Congolaises, des Congolais, des autorités, mais aussi avec l'appui de la MONUSCO.
Alexandre Sommet, responsable de l'unité de sensibilisation à la division information publique de la MONUSCO, précise les défis à relever.
Que nous voulons sécuriser la plupart des poches d'insécurité qui sont à l'Est pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de vaguer à leur occupation habituelle. Parce que nous pensons que s'il y a la sécurité, s'il y a la paix, n'est-ce pas, les populations congolaises vont petit à petit commencer à constituer le modèle de leur développement.
Enfin, pour clore ces dossiers, Lydie, le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, a répondu jeudi dernier en direct de Goma aux questions des internautes. C'était sur le site web de Radio Kapi et de la MONUSCO ainsi que sur les médias sociaux Facebook et Twitter. Les questions ont porté sur le bilan de la MONUSCO et les nouvelles perspectives à venir pour la mission, tandis que son adjoint, qui est en même temps coordonnateur de l'action humanitaire en RDC, Mustapha Soumaré, a animé vendredi dernier une conférence et débat à Kinshasa.
Merci Jean-Pierre. Autre actualité de la semaine, c'est la célébration lundi 1er décembre dernier de la journée mondiale de lutte contre le sida. Quelle est la situation de la pandémie en RDC? Le docteur Lamine Sako, représentant de l'ONU Sida en RDC, dresse l'état des lieux de ce qu'on a appelé la maladie du siècle dans ce pays. Ses propos sont recueillis par Jean-Pierre Lali Coco.
La RDC manifestement a une épidémie stable, comme nous le disons, autour de 1,2%. Il n'y a pas une progression de cette prévalence en dehors de nos provinces qui est à l'est. Effectivement, l'épidémie est stabilisée. Les nouvelles infections sont autour de 30 à 34 000 personnes. Le nombre de décès également a été diminué. Les grands défis pour la RDC tournent autour de la couverture de services essentiels pour les personnes qui vivent l'épidémie. Il y a environ 430 à 420 000 personnes vivant avec le VIH estimé. Et environ une personne sur deux a accès aux antirétroviraux, voire moindre.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Toujours dans le cadre de la célébration des 15 ans de la MONUSCO, considérons cet autre aspect. Il s'agit de la relation entre une économie de guerre et la paix, dans le cas de la RDC, un pays post-conflit. Laure Niassou est économiste auprès de la division des affaires politiques de la MONUSCO. Elle a eu le privilège de suivre 10 ans durant l'évolution de l'économie congolaise pendant cette période de crise. Madame Niassou évoque justement cette évolution dans un entretien avec Jean-Pierre Elali Coco.
Laure Niassou, bonjour.
Bonjour.
Et la MONUSCO fête ses 15 ans d'existence ici en République démocratique du Congo et nous vous recevons dans le cadre purement de la situation économique du pays pendant toute cette période. Alors, madame, la première question c'est de savoir la relation qui existe entre une économie dans une zone de conflit ou post-conflit comme la RDC et la paix.
Eh bien, c'est une relation importante et pour ne pas dire capitale. Si on regarde les cas des missions des Nations Unies, vous verrez qu'en Afrique subsaharienne, il y a 8 missions de maintien de la paix, dont celle de la RDC. Et ces missions se trouvent dans des pays en voie de développement. Et le problème principal de ces pays, c'est la situation sécuritaire ou parfois l'instabilité politique. Donc, il est capital de restaurer le cadre macroéconomique tout en pensant en même temps assurer le cadre sécuritaire. Les deux vont de pair.
Dans vos interventions, dans des forums économiques, vous évoquez souvent l'économie des rentes et surtout une économie informelle. Mais est-ce que vous pouvez expliquer cela en ce qui concerne le contexte congolais?
Alors, dans le contexte congolais, c'est assez intéressant, comme dans la plupart des pays en voie de développement. Le fait que la RDC soit une économie dans laquelle il y ait des matières premières, c'est ce qui fait de cette économie une économie de rente, puisque ces matières premières sont essentiellement exportées à l'extérieur du pays. Et ça génère des revenus pour l'État. Vous aviez posé une autre question au sujet du fait que la RDC soit une économie dans laquelle le secteur de l'informel est important. Et ça, c'est aussi un des aspects. Le pays connaît en 2014 8,6 de croissance, mais ces 8,6 de croissance économique ne captent que l'économie formelle. Et ça veut dire que la puissance économique que représente la RDC peut être maximisée si on parvient à intégrer davantage l'informel.
Et comment s'y prendre, madame?
Alors, ça, c'est une question cruciale, parce que je crois que tous les pays en développement sont confrontés à cet aspect-là. Pourquoi formaliser l'économie informelle, notamment à travers la taxation, mais c'est aussi pour les opérateurs économiques d'être reconnus, et j'entends les mamans d'être reconnues aussi en tant que commerçantes. Ça reste un enjeu crucial et je crois que c'est un des combats que les pays en voie de développement sont en train de mener.
Comment peut-on passer d'une économie militarisée, pour reprendre votre expression, à une économie de paix? Quels sont les préalables? Je prends le cas de la République démocratique du Congo.
Évidemment, cette économie militarisée, c'est malheureusement ce qui se passe à l'est de la RDC. Et la présence de la mission, c'est de contribuer à faire cette transition d'une économie de guerre à une économie de paix. Et comment? Eh bien, plus on restaure la paix à l'est, plus on peut reprendre les activités économiques. Et donc, c'est capital d'avoir la paix. La paix est finalement le vecteur principal pour pouvoir reprendre les activités économiques dans un contexte sécurisé.
Et vous avez parlé de l'industrialisation du pays comme étant un des éléments moteurs. Vous avez parlé de l'électricité, donc de l'énergie. Et vous avez aussi évoqué les problèmes des infrastructures pour arriver vraiment à développer le pays ou à avoir une économie forte. Est-ce que vous pouvez expliquer ça en peu de termes?
Et évidemment, la RDC est une économie en voie de développement et la difficulté qu'il y a, c'est finalement définir son modèle économique. Et étant au 21e siècle, il faut maintenant industrialiser davantage le pays. Industrialiser, ça veut dire créer et offrir des nouvelles possibilités d'emploi, pas forcément à tous. Certains qui seront qualifiés auront accès à l'emploi. Qui dit emploi dit pouvoir d'achat stable. Alors, la difficulté pour l'industrialisation, et c'était le thème que nous avons notamment abordé lors d'une autre conférence sur l'industrialisation, la journée mondiale de l'industrialisation en Afrique. Pour industrialiser, il faut des infrastructures. Et définitivement, la RDC est connue pour le barrage d'Inga, mais il faut aller au-delà d'Inga. Il faut développer le secteur de l'énergie dans l'ensemble du pays. Ça doit être une priorité. L'industrialisation ne se fera pas, et ce qui est tout à fait évident, sans électrification du pays.
Un autre préalable que vous avez évoqué, madame, ce sont des minima sociaux, et ces minima sociaux privilégient plutôt la participation des plus faibles, les plus vulnérables dans le pays pour contribuer à l'économie. Et c'est possible dans un contexte comme celui de la République démocratique du Congo?
Alors, ça c'est une question qui est aussi fondamentale. Pourquoi s'intéresser aux plus démunis d'entre nous, j'allais dire, de la population? Et c'est crucial parce que quand on a une croissance de 8,6 pour 2014, c'est extrêmement important. Pour autant, la croissance n'est pas encore inclusive. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore de la redistribution. Je crois que développer les minima sociaux, c'est de permettre aux plus démunis de bénéficier d'une assistance qui pourrait éventuellement être prise en charge par l'État. Alors, je ne dis pas qu'il faut revenir à un État-providence, comme on peut le connaître en Europe, non. Mais on peut développer un modèle qui soit purement concret. congolais et qui puisse prendre en compte les réalités de la population et les dépenses pour adresser les questions de pauvreté, c'est important.
Pour terminer, Laure Nyassou, quels sont les impacts que peut avoir une mission de maintien de la paix comme la MONUSCO dans un pays post-conflit comme la RDC?
Alors, vous me posez la question des dividendes de la paix.
Tout à fait.
Alors, les dividendes de la paix sont multiples. Donc, si on regarde d'un point de vue purement politique, évidemment, c'est apporter et ramener le processus démocratique, évidemment. Mais d'un point de vue purement économique, puisque c'est ce qui nous importe, une mission de maintien de la paix contribue à créer des emplois. Ça permet de restaurer le cadre économique. Quand une mission de maintien de la paix arrive, elle arrive aussi avec un flux de dollars. Alors, dans le cas de la RDC, on est aussi, et je dois reconnaître, une mission est supporteuse d'inflation, mais de manière mesurée, dans le sens où on a contribué aussi à l'augmentation des prix des loyers. On a participé au boom immobilier, notamment à Kinshasa, je crois que. Donc, les effets d'une mission, de la présence d'une mission de maintien de la paix sont multiples. Mais l'un des impacts les plus intéressants, c'est que plus une mission est dans un pays qui lui aussi amorce sa reprise économique telle que la RDC, plus c'est un signe positif pour permettre les investissements directs étrangers. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce que c'est possible? Eh bien, si on regarde un pays tel que la RDC, la croissance économique du pays, qui est de 8,6 pour 2014, et j'espère qu'il continuera de s'accroître, il faut faire appel au secteur privé. Et quand je dis secteur privé, ça veut tant dire la présence de Congolais, mais également d'étrangers. Et donc, le secteur privé est crucial. Je vous remercie.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Ce dimanche, nous recevons Alexandra Menegon. Elle est chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge en RDC. Le CICR a mené en 2014 d'intenses activités dans le cadre de son mandat. Madame Menegon fait le point. Elle répond aux questions de Jean-Pierre Elali Coco.
Madame Alexandra Menegon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Radio Capi. Nous allons parler du bilan des activités de votre organisation pour l'année 2014. D'abord, madame, on sait que le CICR est en RDC depuis 36 ans. Parlez-nous brièvement de sa mission et de ses représentations à travers le territoire national.
Oui, le CICR est une organisation internationale qui a pour mandat de protéger et assister les victimes des conflits armés et d'autres situations de violence. Donc le CICR met en œuvre tout un palais d'activités dans les zones conflictuelles de la RDC, et donc notamment dans l'est du pays. On a des structures ici à Kinshasa, mais aussi en province orientale, Nord Kivu, Sud Kivu et au Katanga.
Et pas à l'Équateur?
Non, pas à l'Équateur en ce moment. On avait des structures dans les passés. En ce moment, on n'a pas de structure fixe, bien qu'on mène certaines activités.
Vous avez parlé des conflits armés. Parmi les principales activités menées au cours de cette année qui s'achève, le CICR dit avoir sensibilisé les porteurs d'armes sur le droit international humanitaire. C'est quand même un concept un peu nouveau pour certains Congolais. Et madame, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est le droit humanitaire?
Le droit
international humanitaire, oui.
Bien sûr.
Oui.
Le droit international humanitaire, c'est un droit spécialisé qui s'applique exclusivement dans les périodes de guerre, des conflits armés et d'autres situations de violence, et qui vise à réglementer la façon dans laquelle les porteurs d'armes mènent leur guerre afin de protéger les civils et les personnes qui ne participent pas au combat, ça veut dire les blessés ou les personnes détenues. Donc c'est les droits qui donnent des limites à ce qu'on peut faire pendant la guerre. Les gens pensent que pendant la guerre on peut tout faire, cela n'est pas vrai. Les droits internationaux humanitaires mettent des règles aussi dans les périodes de guerre.
J'ai eu un document qui vient des CICR où on parle de la sensibilisation des groupes armés mais des forces armées. Et pourquoi avoir choisi cette cible-là qui me semble beaucoup plus dangereuse quand même?
Parce que les droits internationaux humanitaires s'adressent à toutes les parties au conflit, que ce soit du côté gouvernemental ou du côté des groupes armés, et donc c'est auprès de tous les porteurs d'armes que le CICR doit diffuser, expliquer les droits internationaux humanitaires afin qu'ils soient respectés.
Est-ce que cela a porté? Quel est l'impact de cette sensibilisation? Est-ce que vous avez eu des résultats escomptés?
Bien sûr, c'est un travail de longue haleine qui vise à changer les comportements des personnes. Donc c'est un travail qui dure, comme vous avez dit, ça fait plusieurs années qu'on a un RDC et c'est certainement pas achevé. Pourquoi? Parce qu'on peut tous constater que sous le terrain, il y a encore des violations. C'est pour cela que le CICR mène une palette assez large d'activités. On a tout un programme pour pouvoir soigner les blessés des guerres, personnes qui sont blessées au cours des combats, et un programme de premiers secours. Donc on s'assure que les personnes puissent être secourues au moment de la blessure, transférées d'abord au centre de santé qu'on soutient aussi, puis aux hôpitaux de référence, pour enfin atterrir dans des structures hautement spécialisées à Goma, au Bukavu, là où on a des équipes chirurgicales. Et enfin, si cela est nécessaire, on a aussi le CICR aussi des programmes de réhabilitation physique pour pouvoir faire de la réhabilitation physique aux personnes qui ont dû avoir des membres amputés.
Et madame, vous dites que vous intervenez pendant les conflits, c'est ça?
Bien sûr.
Et est-ce que les personnels du CICR et même de la Croix-Rouge ne sont pas exposés eux-mêmes à ces gens des risques d'être combattus par les belligérants?
Bien sûr, c'est un des risques qu'on court. On essaye de mitiger au maximum ces risques en expliquant très bien à toutes les parties au conflit quel est notre rôle et surtout qu'on est une organisation neutre, impartiale et indépendante.
Et parmi les activités que vous avez menées, il y a aussi réunir les familles séparées par les conflits. Et donc, comment s'est fait le processus, madame, concrètement sur le terrain? Comment vous arrivez à réunir les familles séparées?
Oui, ça c'est une autre des conséquences néfastes des conflits armés, c'est que les familles se séparent à l'improviste lors d'une attaque et ils perdent contact entre les membres de la famille perdent contact entre eux. Nous, ce qu'on fait, c'est...
Et surtout les enfants.
Et surtout les enfants, mais pas exclusivement. Donc il y a deux choses. Il y a un réseau des messages Croix-Rouge, une espèce de réseau postal parallèle, si on veut expliquer qu'est-ce qui c'est, et donc qui est géré par la Croix-Rouge de la RDC, donc la Croix-Rouge congolaise, avec un grand nombre de volontaires. Et les citoyens congolais, dans les zones affectées par les conflits, peuvent écrire un message Croix-Rouge, donc un message très simple, les remettre aux volontaires de la Croix-Rouge, qui, à travers ces réseaux, essayera de contacter les membres de la famille dont on a perdu les contacts.
Et le processus prend combien de temps?
C'est très variable, ça dépend de la difficulté, ça dépend des informations qu'on a, on peut connaître, avoir beaucoup de détails sur où la personne s'est rendue, donc ça sera facile à trouver. Parfois on a très peu de détails, mais ça peut varier entre quelques semaines et plusieurs mois de recherche.
Et la réunification des familles s'est faite aussi au-delà du pays, donc dans les pays frontaliers comme le Rwanda, le Burundi et bien sûr l'Ouganda?
Oui, bien sûr. On est en réseau avec nos collègues aussi de la Croix-Rouge et du comité international de la Croix-Rouge dans les pays limitrophes à la RDC. Donc ça va de la République centrafricaine, le Soudan, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Quand cela arrive, qu'il y ait des enfants qui ont leurs parents de l'autre côté ou vice-versa, des enfants congolais qui ont dû traverser qui sont enfouis à l'étranger, ben on essaye aussi de les réunifier avec leur famille.
Et cette année, vous avez pu réunir combien d'enfants avec leur famille?
Alors, cette année, on a pu réunir environ 700 enfants avec leur famille.
700 enfants, et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce genre d'opérations?
Les difficultés sont multiples. Parfois, c'est des difficultés qui sont logistiques, arriver vraiment à accéder aux endroits là où les familles des enfants se trouvent. Parfois, ce sont des difficultés liées carrément à la compréhension des souvenirs de l'enfant, quel souvenir il a de sa famille. Parfois, c'est négocier avec les groupes armés sous le terrain, leur faire comprendre les pourquoi on fait des recherches, pourquoi on cherche quelqu'un dans les territoires là où ils se trouvent. L'autre difficulté, c'est bien sûr après, parfois les enfants, quand ils ont été séparés très longtemps de leur famille, c'est bien sûr la réintégration de l'enfant dans la famille, dans les milieux, et parfois il est réintégré dans un milieu qui n'est pas le milieu d'origine.
Et là, vraiment, vous avez assisté à ce genre de scènes où les familles se réunissent avec leurs enfants, et vous, comment est-ce que vous vous sentez en ce moment-là, madame? C'est une question tout à fait personnelle.
Oui, c'est très, comment je puisse dire, c'est joyeux, c'est satisfaisant, ça fait plaisir, c'est un moment de joie dans la vie des personnes qui ont une vie très difficile, qui ont souvent tout perdu, qui croyaient avoir perdu aussi leurs enfants, et tout d'un coup, la vie leur sourit à nouveau, et ce qui est plus important, c'est la famille.
Toute dernière question peut-être, vous avez aussi travaillé cette année au niveau des prisons, vous avez parlé de l'assainissement, vous avez parlé aussi de l'assistance accordée aux détenus, est-ce que vous pouvez ramasser ça en quelques mots pour un peu savoir ce que vous avez fait cette année de ce côté-là?
La situation dans les prisons de la RDC est difficile. Les besoins sont nombreux et le CICR a essayé dans les prisons qu'il visite. Il ne visite pas toutes les prisons de la RDC, bien sûr, parce que je répète, c'est un très grand pays. Mais on essaye d'assister les autorités congolaises à fournir aux personnes détenues les nécessaires pour le respect de la dignité.
Alors, madame, je vous remercie.
Merci à vous.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
La question de ce dimanche revient sur un fait d'actualité. Il s'agit de l'affaire des casques bleus ukrainiens sur qui avaient été trouvés des uniformes des FARDC. Le général Abdallah Wafi, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU, se prononce sur cette question.
Lorette Mandala, Africa Télévision, une petite question générale Wafi. Il y a eu beaucoup de rumeurs, il y a eu beaucoup de commentaires sur l'affaire des 10 casques bleus ukrainiens avec qui on a découvert avec des tenues de la garde républicaine. Certains journaux ont même parlé de l'existence d'un trafic mafieux au sein de la MONUSCO. Nous aimerions avoir des précisions sur cette affaire.
Acheter des uniformes congolais, les détenir, les utiliser, donc, constitue un délit en RDC. Il est interdit au terme de la loi congolaise, nul n'a le droit, pas seulement les FARDC, même la PNC. C'est clair, c'est net. Nous avons appris cet incident. Des investigations sont en cours. Nous coopérons avec ces investigations. Nous attendons le résultat. S'il est établi que ces Ukrainiens sont effectivement responsables de cet acte, ils seront sanctionnés conformément à nos propres. Je vous le rappelle, les Nations Unies ont un code d'éthique, de déontologie, un code de conduite qui s'impose à Martin Kobler jusqu'au dernier employé de la MONUSCO. Et tout celui qui violera ces dispositions sera soit rapatrié, soit sanctionné jusqu'à des peines d'emprisonnement. Personne n'y échappe, notre politique tolérance zéro contre l'impunité. C'est clair, c'est net. Maintenant, vous me permettrez aussi de me poser des questions sur l'exploitation qui est faite autour de cet événement.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Je m'appelle Chimanga Molombaye, Joseph Albert. J'ai été choisi dans ce magazine des Nations Unies compte tenu de mon expérience au sein de la mission. Je suis le tout premier journaliste, national à être recruté au sein donc de la MONUSCO dans le département de l'information publique. Je suis marié, père de 8 enfants. J'ai commencé mes études primaires et secondaires dans le Kasaï, occidental bien sûr. Et je suis venu ici à Kinshasa en 1982, où j'ai commencé en 1983 mes études à l'Institut de sciences et techniques de l'information, d'où je suis sorti licencié en sciences et techniques de l'information. Au sein de la MONUSCO, je totalise aujourd'hui 15 ans dans l'information publique, que j'ai vu presque comment cette mission a été créée. Et à l'époque, on avait commencé avec 2 ou 3 personnes, donc des collègues qui étaient recrutés sur le plan international. Avec eux, on a créé le bureau de l'information publique et on a vu presque tout le monde venir ici à la MONUSCO. Donc le bureau de l'information publique était un tout petit bureau qui ne s'occupait que de la communication. Notre travail consistait tout simplement à sensibiliser la presse, parce qu'à l'époque, comme on le sait, la MONUC avait vraiment une mauvaise presse. Le gouvernement, donc, il avait invité la mission de maintien de la paix des Nations Unies, après quelques temps, commençait déjà à se méfier de cette mission. En tant que journaliste, on avait la responsabilité de sensibiliser la presse et la population aussi à la cause de la MONUC. Et on a fait ce travail avec beaucoup de difficultés. On distribuait les communiqués de presse par-ci par-là dans presque toutes les maisons de presse pour arriver aujourd'hui de la MONUC à la MONUSCO, où je totalise aujourd'hui 15 ans donc de services rendus. Aujourd'hui à la MONUSCO, donc je suis administrateur national chargé de l'information. Mes tâches quotidiennes, ce sont des tâches qui sont conformes, c'est-à-dire qui sont similaires à toutes les tâches d'un journaliste, c'est-à-dire collecter l'information, traiter et puis diffuser ou publier ces informations. Comme rédacteur en chef du magazine Écho de la MONUSCO, je suis responsable de la coordination semestrielle de 20 pages dont les activités principales consistent en collecte, traitement et publication des informations sur le mandat de la mission. Avant d'arriver à la MONUSCO, je prestais ailleurs, c'est-à-dire que j'ai pu tour à tour reporter, secrétaire de rédaction, rédacteur en chef, directeur de rédaction, directeur de publication pour le compte d'une quinzaine de journaux Paris à Kinshasa, et ce pendant 15 ans. La plupart de ces journaux se sont sabordés. Et je suis content que deux d'entre eux ont survécu à la crise et ils figurent parmi les grands quotidiens de Kinshasa. En fait, je fais souvent de la marche à pied individuelle pendant le week-end, chez moi, dans mon jardin, dans le quartier. Et ma musique préférée, j'aime beaucoup la rumba et puis un peu de reggae. Mais mes préférés, oh là là, c'est pas complet, hein, composé du foufou, du maïs, du poisson salé, de chenilles, de fratin et du pondou. Bon, 15 ans après, et après la MONUSCO, qu'est-ce que je veux faire? L'on dit que l'emploi devient difficile pour les seniors à la retraite. Enfin, je compte travailler à mon propre compte, toujours dans les médias et la communication. Journaliste professionnel motivé, 30 ans d'expérience, capacité d'analyse, esprit de synthèse, capacité d'écoute, de curiosité, éthique professionnelle positive. Ces profils résumés de mes différentes notes de performance et d'évaluation de mes superviseurs, aussi bien à la MONUC, MONUSCO, qu'ailleurs dans la presse active privée, n'est-il pas celui que de nombreux recruteurs dans le domaine du numérique et de la communication recherchent-ils aujourd'hui? Merci beaucoup.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Et notez dans vos agendas ces deux dates pour la semaine prochaine. D'abord, les 8 et 9 décembre, c'est la journée internationale de lutte contre la corruption. Puis le 10 décembre, c'est la journée des droits de l'homme. Et comme d'habitude, l'équipe du magazine des Nations Unies se mobilise pour couvrir ces activités. Que se termine cette émission qui vous a été présentée par Lydie Bettina. Jean-Pierre Lali Coco était au four et au moulin. Il a assuré la supervision et la coordination de cette émission ainsi que le reportage. L'émission est à réécouter sur notre site internet radio-okapi.net. Merci de nous avoir suivis et à dimanche prochain.